Radio Okapi. Au sommaire ce matin, processus électoral en cours en RDC, les revendications des leaders de l'opposition au centre d'exécution hier vendredi à Kinshasa avec le président de la CENI. La centrale électorale s'est engagée à afficher officiellement les noms des électeurs tels que recensés lors de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. La question des violences faites aux femmes était au centre de la rencontre jeudi dernier à Brazzaville entre le président de la République du Congo-Brazza et Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Celui-ci a encouragé l'enseignement de les bas âges de la masculinité positive pour réduire insensiblement les violences faites aux femmes. L'invité de ce journal est le directeur général de l'entreprise minière Primeira Gold, dont le siège est à Bukavu, au sud Kivu. Maître Joseph Kazibaziba évoque les performances réalisées au cours des 6 premiers mois de cette année 2023, notamment en rapport avec l'exportation de l'or artisanal. Commençons ce journal par cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu vendredi 30 juin le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale délivrée par l'Office national pour l'identification de la population ONIP. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions d'information. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'engage à afficher officiellement les noms des électeurs tels que recensés lors de l'opération d'identification et d'enrôlement. C'est l'une des réponses aux revendications des leaders de l'opposition au terme de plus de 3 heures de discussion hier vendredi ici à Kinshasa. Était autour de la table Denis Kadima, président de la CENI, Martin Fayoulou de l'ECID, Matata Mpogno de LGD, Délice Sanga de l'Envol et Dédoné Bolengetenge du parti Ensemble pour la République représentant de Moïse Katumbi. Ils ont passé en revue toutes les questions liées au processus électoral en cours. Mais concomitamment à l'affichage des noms, les leaders de l'opposition continuent à exiger l'audit externe du fichier électoral. Une position qui, pour Martin Fayoulou, ne pourra pas perturber le calendrier électoral en cours. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
Il est essentiel que les fichiers soient audités. Parce que les élections sont faites sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié. Il a donné ses raisons et il a reconnu que si ce genre de réunions étaient organisées avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que le fichier était correct, que le fichier a des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ce fichier n'est pas consommable, nous prendrons nos responsabilités. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. Voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, on fait l'audit du fichier électoral. Ça ne va pas retarder les élections.
Au Nord Kivu, un groupe religieux ancestral a organisé une manifestation hier vendredi à Goma devant la base logistique de la MONUSCO RVA. Les manifestants ont déclaré être venus offrir des sacrifices d'indépendance afin de libérer le pays. Ils ont offert chèvres, moutons et poules notamment au cours d'une longue cérémonie ancestrale devant le site de la MONUSCO RVA en présence de la population ainsi qu'un dispositif important de l'armée et de la police. Ce groupe est dénommé la foi naturelle judaïque messianique vers les nations Wazalendo. Des nations, des détails avec Sifa Maguru.
Arborant des calicots portant des messages sur les mérites de Patrice Emery Lumumba et sur leur patriotisme, ces personnes ont marché pacifiquement dans certaines artères principales de Goma avec leurs offrandes avant d'atteindre le site de la MONUSCO. Sur place, ils ont organisé un culte mystico-religieux toute la matinée avec des chants et tambours pendant qu'ils égorgeaient des bêtes autour d'un feu factice. Une façon pour eux de commémorer le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC et de prier pour le retour de la paix et la quiétude de tous les peuples congolais nationalistes. Dans un mémorandum signé par son leader Ephraim Bissimwa, adressé à plusieurs instances nationales et internationales, ce groupe a fustigé, entre autres, la division, la soif du pouvoir ainsi que l'absence d'une vision pour bâtir la nation qui caractérise la sphère politique congolaise. Aucun incident n'a été enregistré au cours de cette manifestation. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Notez qu'à Kinshasa, les confessions religieuses ont organisé hier vendredi 30 juin une journée de prière œcuménique d'action de grâce pour la nation dans le cadre de la commémoration des 63 ans de l'indépendance de la RDC. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo peine toujours à conquérir son indépendance économique. C'est ce que pensent certains jeunes de Beni au Nord Kivu, principalement les étudiants, interrogés hier vendredi 30 juin. Ils estiment que la mise en place d'une politique de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse permettra au pays d'étendre vers cette indépendance et combattre ainsi les phénomènes des groupes armés. Car pour eux, les jeunes qui rejoignent les groupes armés répondent aux promesses fallacieuses d'un emploi bien rémunéré. Ils l'ont dit au micro de Blaise Makassi.
C'est que le pays a encore beaucoup de défis. L'indépendance que nous avons toujours clamée, c'est une indépendance qui est plutôt politique, mais économiquement, nous avons beaucoup de défis à relever parce que le pays a besoin des jeunes innovants, des jeunes qui peuvent apporter des solutions aux problèmes. Et c'est ça la vraie indépendance. Mais économiquement, nous avons beaucoup de défis et nous encourageons tout le monde à se joindre à nous pourvu que les défis de ce pays puissent trouver des solutions par les enfants de ce pays.
L'indépendance, en tant qu'un Congolais, nous devons nous en réjouir. Et nous en réjouir ne se limite pas seulement à festoyer dans des endroits, mais nous devons aussi pousser des réflexions. Où est-ce que nous en sommes avec cette indépendance? Est-ce que nous sommes réellement indépendants? On a été indépendants, bien sûr, politiquement, mais est-ce que sur d'autres plans, nous sommes indépendants? Est-ce que l'économie évolue? Est-ce que dans d'autres secteurs de la vie, ils évoluent?
Même si le défi est encore énorme, mais nous pensons que notre pays mérite aussi mieux que ça. Et l'indépendance, c'est aussi l'indépendance économique. Relever l'économie de notre pays, c'est nous-mêmes. Nous n'allons pas attendre la Banque mondiale, les FMI, c'est nous-mêmes d'abord.
Dans le cadre de notre série de reportages sur les 63e anniversaire de l'indépendance, l'agriculture a été un des fleurons de l'économie nationale à l'époque coloniale. Le pays a été, dans les années 50, premier exportateur africain d'huile de palme et second exportateur au monde. Il occupait aussi une bonne position par rapport au caoutchouc, café, cacao, maïs, thé et autres cultures pérennes. C'était grâce à la politique mise en place en 1910 par la Direction générale de l'agriculture au sein du ministère belge des colonies, car les matériels, semences, moniteurs agricoles et moyens de transport étaient à la portée des paysans. Mais ces acquis ont sombré au fil du temps. 63 ans après l'indépendance, le Congo, malgré ce multiple programme de relance, devient plutôt dépendant des importations des produits alimentaires. Éclairage avec Paul-Richard Malingela.
Peu avant l'indépendance de la RDC, le Congo belge considérait l'agriculture comme une activité primaire de base. Elle était imposée dans toutes les campagnes. Cette politique a assuré l'autonomie de la population, motivée à produire davantage. Jean-Louis Foloko, expert en planification et développement, témoigne.
En 1959-60, au village, je voyais les véhicules faisaient des centaines de kilomètres pour aller ramasser des noix de palme chez les paysans. Et le paysan, en dehors de son champ, avait une recette qui provenait de la quantité de noix de palme ramassées par les huileries. Et les individus se suffisaient, vivaient dans de bonnes conditions.
Le régime colonial a ensuite développé l'agriculture industrielle, premier pilier de l'économie de la colonie. À travers le pays, de multiples plantations de palmiers, d'EVA, de café, de cacao, de thé, de coton et j'en passe, avec leurs industries connexes, ont créé beaucoup d'emplois. Mais au fil des années après l'indépendance, l'agriculture congolaise a perdu sa priorité, ses lettres de noblesse. Les multiples programmes de relance tels Objectif 80, par ça, Prapé, n'ont été que des simples slogans, voire des sources d'enrichissement illicite. Conséquence, le secteur agricole est aujourd'hui par terre, au point que le pays qui exportait jadis importe aujourd'hui même du riz, du maïs ou de la tomate. Bandaka, Porsche Malingela, Radio Okapi.
La question des violences faites aux femmes était au centre de la rencontre jeudi dernier à Brazzaville entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Information livrée sur le compte Twitter de la présidence du Congo-Brazza. Dr Denis Mukwege a précisé poursuivre la prise en charge holistique des femmes victimes de violences sexuelles à l'hôpital de Panzi au sud Kivu. Il a encouragé l'enseignement dès les bas âges de la masculinité positive pour réduire sensiblement les violences faites aux femmes. On l'écoute dans ce texte proposé par Alain Irung.
Nous poursuivons la prise en charge des victimes des violences sexuelles, puisque le conflit est toujours en République démocratique du Congo dans sa partie est et aujourd'hui la partie ouest, Kwamout, est aussi en conflit. Et malheureusement, dans tous les conflits, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde, on se rend compte que dans tous les conflits, ce sont les femmes et les enfants qui payent les lourds tributs. Et donc, à l'hôpital de Panzi, nous avons mis en place une prise en charge qui a quatre piliers, le pilier médical, le pilier psychologique, le pilier socio-économique et le pilier légal. La masculinité positive doit être enseignée, puisque ce que nous apprenons à nos enfants dès le bas âge, lorsqu'ils grandissent, ils apprennent à pouvoir respecter les femmes et je dois dire que nous avons besoin d'elles pour construire une société stable, une société où il fait beau vivre.
Nord Kivu encore, les organisations féminines haussent les tons après l'incident survenu à Walikale, à la base militaire de Biroué, il y a quelques jours. Une femme, épouse d'un militaire, a été victime de tortures et traitements humiliants de la part des militaires. Incident qui a suscité indignation et réactions diverses. Dans une déclaration hier vendredi à Goma, la plateforme de ces organisations, dénommée Sauti ya Mama Mkongomani, exige que le commandant de la base de Biroué, le général Doudou Kabwe, soit déféré devant la justice et sanctionné. D'après les femmes du Nord Kivu, c'est inadmissible qu'un officier supérieur de son rang puisse violer les principes des droits humains en donnant l'ordre à ses militaires de réserver un tel traitement à un civil, de surcroît une femme. Nelly Lumbulumbu est au micro de Sifa Maguru.
C'est avec beaucoup d'amertume que nous avons reçu la plainte de Madame Isabelle Ukunabo Kunako, femme d'un militaire de la Bawa. Elle est mère de 5 enfants et victime d'un acte de torture, d'un traitement inhumain, cruel et dégradant qui lui a été infligé par 4 éléments de la FARDC de la base militaire de Biroué à Bawa. Cette dame s'est retrouvée au bureau du général pour solliciter le paiement de la prime de son mari. S'est retrouvée être torturée. Nous venons ici demander la sanction pure et simple du général. Nous sommes en train de demander au commandant de la 34e région militaire une sanction exemplaire qui doit être infligée au général Doudou Kab. Le général n'a pas le droit d'abuser de son pouvoir. Nous sommes en train de solliciter de la part des autorités une sanction exemplaire à l'endroit du général. Il n'est pas au-dessus de la loi. Les droits humains, ce sont des droits universels. Je pense que le général doit connaître ces droits-là.
Notez que la victime reçoit déjà une prise en charge médicale grâce à l'ONG FEDAPID. Les organisations féminines disent craindre pour la sécurité de la victime et sa famille vivant dans la localité de Biroué. Nous n'avons pas eu la réaction de l'officier incriminé. L'USAID lance un nouveau projet en RDC dans le secteur de la justice, axé sur la promotion de l'état de droit. Ce projet, dénommé PROLA, et qui a été présenté jeudi dernier, comporte dans ses actions l'appui des efforts de lutte contre la corruption et la promotion d'un accès égal et équitable à la justice en RDC. Étalé sur 5 ans avec un financement de 14 millions de dollars, le projet PROLA tient à parvenir à l'amélioration de la perception et la confiance du public vis-à-vis du système judiciaire au bout de toute sa période. Le chef de projet PROLA, Daniel Drobovolejek, donne les grandes lignes de la mise en œuvre des activités avec le concours de l'initiative du barreau américain pour l'état des droits, ABA Roli.
PROLA, pour le moment, opère à partir de Kinshasa, bien sûr, mais va opérer dans certaines provinces qui doivent nous être indiquées par l'USAID en conjonction avec le ministère de la Justice, bien sûr. Alors, nous avons 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est d'œuvrer à l'indépendance du système judiciaire congolais, faire en sorte que les magistrats, la magistrature et l'ensemble du système judiciaire soient dotés davantage de pouvoir et soient plus indépendants par rapport aux 2 autres pouvoirs que sont bien sûr le pouvoir exécutif et le législatif. Il est temps que le pouvoir judiciaire puisse par exemple gérer ou programmer son propre budget. Sur le terrain, nous sommes un consortium d'entités américaines, c'est-à-dire MSI qui est le Tetra Tech qui dirige ce consortium et avec le barreau américain qui a des bureaux à Goma. Et puis nous comptons travailler avec un grand nombre d'ONG congolaises que nous allons sélectionner dès que les activités du projet seront lancées.
L'Association africaine de défense des droits de l'homme dénonce la violation de la loi sur l'expropriation dans les dossiers en rapport avec les parcelles des particuliers sur les sites Kinmalebo, village Kindobo, à l'est de la ville de Kinshasa. Dans un point de presse hier vendredi à Kinshasa, le président Lazado a récusé la proposition de l'État congolais de payer les indemnités forfaitaires à plus de 300 propriétaires expropriés dans ce site qui sera utilisé pour d'autres fins. Maître Jean-Claude Katende exige un paiement d'indemnités sur base de la valeur des maisons qui étaient érigées dans ce site, assorti d'un accord entre les deux parties. On l'écoute.
Dans le cas qui nous concerne ici, ils n'ont jamais été contactés par le ministère des Affaires foncières pour pouvoir négocier avec eux et obtenir leur accord pour que leur parcelle soit reprise par l'État. Et quand cet accord n'est pas trouvé, l'autorité saisit un tribunal compétent qui va vérifier les conditions de respect de la loi qui en fait encadre l'expropriation pour éviter que les autorités ne puissent se conduire comme si nous étions dans une gêne. Et évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que cette loi est violée. Dans le cas d'espèce, les ministres veulent reprendre ces terrains pour les confier à d'autres personnes, alors que l'entente n'a pas été trouvée, alors que les juges n'ont pas été saisis, et ils veulent donner des indemnités forfaitaires, ce que la loi ne prescrit pas. La loi parle des indemnités calculées sur base de la valeur du bien.
Actualité internationale.
Au Soudan, le Conseil souverain demande l'aide de Moscou pour une médiation dans la crise. Le vice-président de ce conseil, Malik Agar, était pour ce faire hier vendredi à Moscou, où il a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères. Une guerre oppose les militaires et les paramilitaires au Soudan depuis le 15 avril dernier.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur général de l'entreprise minière Primeira Gold, dont le siège est à Bukavu, au sud Kivu. Maître Joseph Kazibaziba évoque les performances réalisées au cours des 6 premiers mois de cette année 2023, notamment en rapport avec l'exportation de l'or artisanal. Il répond aux questions d'Emmanuel Elamézi Wakabedi.
Maître Joseph Kazibaziba, bonjour.
Bonjour, monsieur Elamézi.
Directeur général de Primeira Gold, on peut savoir, à 6 mois de travail, aujourd'hui, votre entreprise est arrivée à quelle performance dans l'encadrement de l'or artisanal?
Dans 6 mois, on a commencé déjà depuis le mois de janvier, où la situation était beaucoup plus compliquée. Nous sommes passés de 9 kilos. Au deuxième mois, on est arrivé jusqu'à plus de 150 kilos. De 150, on est passé à 250. Et aujourd'hui, finalement, nous arrivons à plus de 500 kilos le mois. Et la vision reste celle de capter une tonne le mois avant fin d'année. Mais si je devrais faire de janvier cumulé jusqu'à aujourd'hui 29, nous sommes arrivés finalement à 2000 kilos ou des tonnes. Ce n'est pas suffisant, mais c'est beaucoup mieux. Déjà, vous comprendrez que 2000 kilos représentent plus de 80 ans, ou il aurait failli 80 ans pour que la province du Sud Kivu exporte ou réalise 2000 kilos.
Alors, pendant ce temps, le récent rapport des experts des Nations Unies cite Primeira Gold. Ils disent que ça risque de servir de canal de blanchiment de minerais. Comment vous réagissez?
Ce qui pourrait nous surprendre, que si on ne citait pas Primeira dans le rapport, le fait de nous citer dans le rapport des experts des Nations Unies, ça prouve encore à suffisance que nous sommes en train de jouer un rôle important sur la chaîne. Nous sommes en train de jouer un rôle déterminant. Celui, n'est-ce pas, de ramener sur une chaîne qui n'avait pas d'espoir pendant plus de 25 ans et qu'aujourd'hui, nous ramenons toutes les quantités sur le marché international, ça fait la fierté non seulement du pays, mais aussi de la province de Kivu en particulier. Les experts, comme vous les appelez des experts, je sais qu'ils ont émis plusieurs hypothèses et qu'au-delà de cette hypothèse, comme ils l'ont bien conjuguée au conditionnel d'ailleurs, qui risquerait. Donc c'est la phrase elle-même, elle est conjuguée au conditionnel. Je ne peux pas répondre sur une allégation qui n'est pas très claire ou définie. Quand vous lisez le rapport, vous allez constater qu'ils l'ont si bien souligné que Primera Gold a mis en place des mécanismes locaux, nationaux, internationaux qui permettent que la société soit solidaire, ils l'ont salué. Et de la même confiance qu'ils ont constaté que nos mécanismes de traçabilité sont solides, nous pouvons rassurer à tout le monde que ces mécanismes ne permettront jamais que Primera devienne le blanchisseur d'argent illicite dans la province du Sud-Kivu, avec tout un système aujourd'hui de traçabilité, et que l'idée même qui nous ramène à la bancarisation de tous les bénéficiaires, je crois que c'est cette façon qui va surprendre tout le monde.
À part cet avantage de la bancarisation, quel autre avantage bénéficie la population du Sud-Kivu? D'où sort cet or? Les communautés, d'où sort ces minerais?
Je peux déjà souligner que nous sommes dans le domaine artisanal, et que ce n'est pas l'artisanal qui développe un pays. L'artisanal, c'est un moyen pour que les communautés locales puissent vivre de ça. Déjà, c'est cette disponibilité de cash qui impacte de manière directe et indirecte les activités connexes. Et il y a plusieurs initiatives qui vont être mises en place. Déjà, les assurances vont être mises en place pour les créseurs et leurs conjoints. Au-delà de ça, il y a plusieurs projets que Primera Gold, avec Primera Group, qui est la parent company, faire profiter les communautés locales des ressources naturelles comme le veulent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Maître Joseph Kazibaziba, DG de Primera Gold, merci.
Et notre invité, Maître Joseph Kazibaziba, directeur général de l'entreprise minière Primera Gold, s'entretenait à Bukavu avec Emmanuel et la Mejiwa Kabedi. Fin de ce journal qui a été coordonné et supervisé par Alain Irung, Pierre Diassounois sur la technique, à leur nom. Je vous dis merci pour votre fidélité à Radio Okapi.